time. It's always vanishing. The commute, the errands, the work functions, the meetings, selling your car. Unless you sell your car with Carvana. Get a real offer in minutes. Get it picked up from your door. Get paid on the spot. So fast, you'll wonder what the catch is. There isn't one. We just respect you and your time. Oh, you're still here? Move along now. Enjoy your day. Sell your car today.
Carvana.
Pickup fees may apply.
Retrouvez Anjou Pop Corner sur tous les réseaux et toute l'année sur les conventions pop et geek culture partout en France.
Vous allez maintenant écouter l'interview par Angelo de William, un professeur d'histoire géo qui utilise les jeux vidéo comme moyen d'apprentissage. Cette interview a été enregistrée lors du Clermont Geek Convention le week-end du 19 et 20 mars 2022.
Comment ça va ?
Ça va, bonjour à tous.
Bonjour à tout le monde.
Ça va, c'est éprouvant comme... En plus, on est juste à côté de la piste Just Dance.
Ouais, c'est... à côté de la piste Just Dance, c'est...
Le son est malade.
Là, il y a la grande scène juste devant et juste derrière la piste Just Dance.
Ouais, exact.
Donc, comment dire qu'on est servi niveau bruit, quoi.
On est servi niveau bruit, ouais. Entre le chant d'un côté et la danse de l'autre. Ouais. Mais c'est bien, ça crée du passage et de l'animation, c'est super.
Ouais, c'est sûr. Donc alors, pour commencer, je peux te proposer de te présenter du coup à tout le monde.
Je m'appelle William Brou. Si ça a une importance. Je suis professeur d'histoire géographie pas loin de Clermont-Ferrand, à Thiers. Et je me suis spécialisé depuis 8-9 ans dans le fait de faire jouer mes élèves aux jeux vidéo dans mon cours.
Ok, et du coup ça c'est des élèves de quelle année
enfin, Alors quoi, cette année du coup j'ai des élèves de 3e, mais principalement je suis en collège. Donc je vais jouer depuis la 6e jusqu'à la 3e. J'ai tenté un peu le lycée aussi.
Okay.
Et depuis de cette expérience-là de cours avec jeux vidéo est née l'aventure Histoire en jeu, donc la chaîne YouTube depuis 2017. Du coup, donc elle est plus récente que ce que je faisais en classe, sur laquelle j'analyse des jeux vidéo qui parlent d'histoire. Et j'essaie de faire à la fois de la vulgarisation historique, de l'éducation aux médias jeux, ce que c'est qu'un jeu, comment il est construit, etc. Pour faire acquérir un peu d'esprit critique.
Et du coup,
aux élèves.
Comment ça t'est venu cette idée, du coup?
Il y a plusieurs. Ça change à chaque conférence en fait, le point de départ. Je vais en choisir un au pif. Non, il y a le vrai point de départ, c'est quand j'étais en poste à Lyon il y a maintenant 9 ans, je crois à peu près. Je faisais cours à une classe de 4e sur la Révolution française et c'était l'année où venait de sortir Assassin's Creed Unity du coup, sur la Révolution française avec tout le pataquès avec Jean-Luc Mélenchon, machin, je reviens pas dessus. Et en fait, je me suis posé la question, moi je suis en train de leur faire un cours un peu chiant là sur la Révolution, je débutais en tant que prof, donc forcément c'était chiant. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'ils vont retenir? Enfin, ils risquent de jouer à ce jeu-là maintenant ou un peu plus tard, et même les joueurs vont y jouer. Qu'est-ce qu'ils vont retenir? Est-ce qu'ils vont préférer retenir ce que le jeu leur donne à voir et à comprendre? Ou est-ce qu'ils vont plutôt préférer croire le prof qui met des mauvaises notes? Je schématise, c'est un peu cliché dans ma tête, mais... Et la réponse en fait, elle est un peu entre les deux. Et mon objectif, c'est de mettre le jeu dans la classe pour apprendre à avoir des réflexes par rapport aux jeux vidéo et ce que ça peut nous apprendre.
Ok, bah ça c'est une très bonne initiative en tout cas. C'est plutôt sympa. Là je vois un message dans le chat. Je pourrais avoir une petite communication avec ce monsieur. Ça m'intéresse aussi d'utiliser les jeux vidéo dans l'apprentissage du français.
Mais avec plaisir. Je travaille beaucoup avec mes collègues de français notamment. Quand je dis beaucoup, je suis connu. Grâce à un reportage de Combini, je sais pas si certains l'ont vu, vous pouvez chercher, vous tapez Combini William Brou, Combini Battlefield 1. C'était une chouette expérience ça. On a fait jouer les élèves de 3e à Battlefield 1, la première mission de Battlefield 1. Donc je vais pas refaire le pitch, mais en gros c'est une mission, c'est un assaut lors d'une tranchée. On joue à un Harlem Hellfighters. On a fait repérer aux élèves des éléments, on leur a fait noter ce qu'ils avaient retenu, de ce qu'ils avaient fait, de ce qu'ils pouvaient faire, de ce qu'on leur demandait de faire, de ce qu'ils voyaient ou de ce qu'ils entendaient. Donc ils pouvaient noter ce qu'ils voulaient, des choses réalistes ou totalement irréalistes. Et à partir des infos qu'ils ont sélectionnées, on leur faisait écrire une lettre à la manière d'un poilu, comme s'ils avaient survécu à cet assaut-là. Donc vraiment une lettre réaliste dans sa forme, mais what the fuck dans le contenu, parce que ça devait raconter n'importe quoi, genre il n'y avait pas de tyrannie, la vie remontait toute seule, enfin bref, des trucs un peu comme ça. Et ensuite, on a comparé ces lettres-là et ce contenu avec le cours qu'on avait fait juste avant et des vraies lettres de poilu. Et le but, c'était de faire une analyse critique vraiment du jeu et de l'expérience de guerre que donnait le jeu. Et donc, on a fait ça avec ma collègue de français. La séquence, elle est née, sans déconner, autour d'un café en salle des profs parce que ma collègue se plaignait que les élèves n'étaient pas assez imaginatifs dans les lettres qu'ils écrivaient avec elle.
Ok, ah, mais ça c'est hyper intéressant parce que du coup, pour répondre à la fin du coup...
Oui,
pour les réseaux sociaux.
Oui, alors bah du coup, il y a soit l'adresse mail directement histoireenjeu@gmail.com, mais je me suis planté en la créant, donc il manque un e. Ou alors sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram. Ouais. Le mail, c'est ce que je suis le plus. Et donc suffit d'aller sur la chaîne YouTube dans la partie à propos et l'adresse mail est disponible.
Ok. Et du coup, la question que j'avais, c'est, t'as eu l'idée, tu vois, mais est-ce que ça a été compliqué à mettre en place?
C'est très compliqué. Dans l'EducNat, beaucoup de choses sont compliquées.
Ouais.
En fait, le facteur limitant, c'est le matériel.
Ouais.
On n'a pas de matériel. Tous les bahuts sont maintenant équipés en informatique, ça, il n'y a pas vraiment de souci. Mais les ordis ne font pas tourner les jeux.
Ouais.
Et en fait, c'est déjà une plainte qu'il y avait. J'en avais discuté avec un collègue qui avait déjà, il y a 20 ans, voulu utiliser le jeu Caesar 3, okay, qui est un jeu de gestion dans la Rome antique. Et il me disait, il y a 20 ans, le jeu ne tournait pas sur les machines. Aujourd'hui il tourne, ouais, mais maintenant aujourd'hui on ne fait pas tourner Assassin's Creed.
Oui.
Et même quand j'ai voulu faire jouer les élèves à Tropico 5 ou 4, bah, on m'a dit le problème c'est qu'il n'y a pas de carte graphique. Donc voilà, on a ce facteur limitant. Donc on va trouver des stratégies pour faire jouer les élèves et les mettre en situation de jeu. Parce qu'en fait ce qui compte beaucoup, c'est pas tant le jeu en lui-même en tant qu'objet, c'est la, ouais, situation dans laquelle ils vont être. Ouais. C'est un peu le move quoi, c'est cette situation, ce. Ouais, cette position de ouais, je suis devant un jeu, en fait je me prends au jeu, je vais. Ouais. Et voilà. Et on est devant une génération aujourd'hui, et enfin je suis un peu pareil aussi, donc ça ne pose pas de souci de rester 10, 15, 20 minutes devant un streamer en train de le regarder jouer à un jeu.
Non,
j'adore, je regarde beaucoup. Moi je regarde beaucoup Mister MV, je regarde,
ouais,
beaucoup Zerator, je regarde beaucoup AlphaCast.
Ouais.
Parce qu'en fait, j'ai pas forcément beaucoup de temps de jeu, je l'admets. Et du coup, ça me fait. Je découvre des jeux et des stratégies grâce à eux en fait.
Ok.
Et des fois, il y a même des séquences qui naissent en les regardant jouer. Un exemple tout bête, je regardais Mister MV jouer à GeoGuessr. Il, okay, est très mauvais. Hein. Spoiler, il est très mauvais. Okay, donc c'est jeu de géolocalisation et de.
Très chaud,
mais en fait, il faisait des commentaires qui m'ont fait titre. Mais en fait, si lui, il a ce genre de réflexion en jouant à ce jeu-là, mes élèves vont avoir les mêmes.
Okay.
Et la réflexion, c'est en fait, il était passé 5 fois devant le même lieu. Et on va dire, ah, mais ça, c'est bon, je sais quel département c'est, je sais quelle ville c'est, etc. Et du coup, je me dis, mais si j'arrive à faire ça avec mes élèves, à les mettre dans cette situation-là, bah en fait, ils vont acquérir des repères géographiques, etc. Voilà.
Ah,
donc c'est le genre de, je regarde beaucoup ça. Donc la première stratégie, c'est ce que je fais, c'est que j'amène ma PlayStation. Il y a un élève qui joue et les autres regardent.
Okay.
Ils sont en position d'observateur.
Ouais.
Et là, depuis maintenant un an, on a réussi à faire acheter des ordinateurs gaming au collège.
Ok, sympa.
On en a trois maintenant, enfin deux bientôt trois,
ouais,
ce qui va nous permettre de faire des plus petits groupes de jeux.
Ouais.
Et est-ce que l'aboutissement de ça, ce sera d'avoir un PC par personne? J'en suis pas persuadé parce que je pense que le jeu doit rester collectif et que.
Ouais, puis garder le côté spectateur, ça peut être intéressant aussi. Parce qu'il y a,
oui,
forcément. Quand on est en plein jeu, on remarque pas forcément ce que d'autres peuvent remarquer en face en regardant.
Ouais, t'as raison, c'est exactement ce qu'on a remarqué quand on a lu les lettres. C'est qu'en fait, t'as des gamins, et vu qu'ils sont dans le jeu, enfin voilà, ils ont la manette en main, ils sont focus sur le centre de l'écran. On faudrait le eye tracker pour voir,
ouais, ce qu'ils, ouais,
regardent et tout.
Ouais.
Et en fait, ceux qui sont à côté, ils disent ouais, mais t'as pas remarqué, la maison à côté a été cramée,
ouais,
ou
voilà,
machin.
C'est ça.
Mais non mec, j'ai pas eu le temps de remarquer, j'étais,
voilà,
en train de tuer des méchants.
C'est ça, ouais.
Donc ouais, c'est intéressant cette position d'observateur. Et il y a aussi des stratégies où on peut jouer à des jeux carrément en groupe classe. Enfin,
ouais,
vraiment, j'ai un collègue qui travaille avec Enterre-moi mon amour. Okay. Donc c'est un jeu plutôt, enfin, jeu d'actualité sur la crise syrienne, la crise migratoire,
okay,
etc. Et lui, en fait, la stratégie qu'il a trouvée, c'est de mettre tous les élèves face au jeu et les décisions se prennent collectivement.
Oh, okay.
Voilà. Donc on peut,
sympa,
aussi avoir ce genre de pratique là. On n'est,
ouais,
pas obligé de mettre un élève devant une console, devant un jeu. On peut essayer de trouver des stratégies un peu alternatives comme ça.
Ok. Et par exemple quand t'as eu l'idée, etc. Quand par exemple t'as émis l'idée, je pense que t'as émis l'idée à une direction ou quelque chose comme ça. Ça a été quoi un peu la première réaction quand tu leur as proposé la première fois l'idée, tu vois?
Bah c'est super, faut le faire.
Ouais.
En fait.
Là, parce que je m'imagine qu'il peut y avoir des directions un peu réticentes, tu vois.
Ben, oui, mais comme
encore
partout.
Ça commence, encore
en fait,
ça commence à se démocratiser.
Même quand j'en parle à la GDC, que j'en parle un peu à droite à gauche en conférence, c'est une question qui revient, qui est très,
ouais,
récurrente, hein, la question des chefs, l'autorisation et tout.
Ouais.
Et il faut avouer que lors de ces conférences, je présente, ouais, regardez, j'ai pris ce jeu, j'ai fait ça avec, etc. Mais il faut savoir qu'en fait, je documente absolument tout et,
oui,
en fait, je choisis pas un jeu au hasard.
Ouais.
C'est pas parce qu'il parle de la Première Guerre mondiale que je vais le choisir. En fait, j'ai un objectif pédagogique, parce que je suis prof, donc on a des cadres. On a des programmes.
Ouais, voilà.
J'en ai parlé lors de la conf de ce matin. On a des cadres, on a des programmes, on a des compétences à faire acquérir.
Ouais.
Et en fait, on est libre, plus ou moins, de la stratégie qu'on peut prendre ou choisir pour aborder ces points et travailler ses compétences avec les gamins. Moi, j'ai choisi le jeu, mais ça veut dire que là, l'exemple de Battlefield que je t'ai donné tout à l'heure, je voulais leur faire travailler l'argumentation, l'expression écrite et l'analyse critique de jeu.
Ouais.
Et leur faire parler d'expérience combattante, leur faire toucher du doigt ce qu'on appelle une expérience combattante.
Ouais.
Et leur faire pointer du doigt la différence entre une expérience vidéoludique et une expérience réelle.
Oui.
Voilà. Et en fait, en partant de ça, je me suis dit, quel jeu serait le meilleur ou quel jeu je me sens d'utiliser? Il y en aurait plein d'autres. On pourrait prendre Eleven Memories Retold, on pourrait prendre Soldat Inconnu, on pourrait en prendre plein des jeux. Et il serait tout aussi légitime de prendre ces autres jeux. Moi, j'ai choisi Battlefield pour une raison. Quand j'ai joué à ce jeu, la première fois en 2016, je l'ai testé pour la chaîne YouTube. Abonnez-vous d'ailleurs au passage.
Abonnez-vous, ce sera dans la... D'ailleurs, pour le replay YouTube, ce sera dans la description, la chaîne YouTube. Donc, vous n'avez pas d'excuses. Non, cherchez pas.
Quand, en fait, les 5 premières secondes de la campagne du jeu, tu as ce personnage noir, afro-américain. On apprend plus tard que c'est un Harlem Hellfighters. Et on le voit dans sa chambre d'hôpital. On entend une chanson qui s'appelle Dream, A Little Dream of Me, qui date des années 30. Donc en fait, la chanson nous fait comprendre qu'on est dans les années 30.
Ouais.
Il n'y a pas de telle année, telle date, il n'y a pas de paratexte. C'est que la musique qui nous fait comprendre que. Encore faut-il savoir que cette musique date des années 30.
Ouais, c'est sûr.
Mais le sound designer aurait pu choisir n'importe quelle musique. Mais non, ils ont choisi celle-là pour nous situer dans le temps.
Ouais.
Et ensuite, la caméra se rapproche du visage du soldat. Allez voir cette intro, elle est géniale. On zoome vers le visage du soldat, on entend des bruits de coups de feu, etc. Et d'un coup, il y a un cut, et le visage du soldat, il est transposé, il ouvre les yeux et on est sur le champ de bataille.
Ouais.
Et donc, on a compris qu'on était en train de voir un traumatisé de guerre qui a survécu à la guerre. Et qu'en fait, la mission qu'on allait faire, c'est pas une vraie mission de la Première Guerre mondiale, pardon. C'est le souvenir qu'il en a. On est rentré dans sa tête. Voilà, mais ça, il m'a fallu plusieurs moments pour vraiment comprendre. Mais
ouais, mais tu vois, t'as cherché quand même à analyser, tu vois. Alors que par exemple, t'aurais pu simplement prendre ce qu'on te donne, tu vois, sans forcément l'analyser. Et forcément, qu'il y ait cette recherche derrière, ça rend aussi toi ce que tu proposes différent, tu vois.
Ouais, mais oui, bien sûr, mais j'aurais pu juste prendre. Regardez, la guerre,
ouais,
c'est dur, regardez, il y a de la boue, c'est terrible, machin, tout ça.
Mais est-ce que t'as envie de faire ça aussi, tu vois?
En fait, je cherche pas un jeu qui me remplace.
Ouais.
Moi, je cherche à raconter des histoires et raconter ce que je suis censé transmettre.
Ouais.
Et faut avouer que, alors on pourrait me poser la question, pourquoi le jeu vidéo, il y a des films qui le font, il y a des séries qui le font, enfin pourquoi en fait? Et j'en parlais ce matin, en gros 98% des jeunes français disent jouer au moins une fois, enfin jouer une fois par jour je crois que c'est ça. Et en fait, les jeux vidéo sont devenus l'œuvre culturelle la plus dominante, grâce à Twitch, grâce à YouTube et plein de
choses. La plus interactive aussi.
Alors ça, c'est il y a la dimension interactive qui, du coup, peut-être fait en sorte que ça. Mais voilà, l'industrie s'est développée. Tout le monde joue aux jeux vidéo. Voilà, il y a 2,7 milliards de joueurs de jeux vidéo, je crois, dans le monde. Pardon si je me gourre sur les chiffres. Et les jeux sont là. Et on m'accuse souvent de faire rentrer le loup dans la bergerie. Sauf qu'en fait, les jeux, ils sont là. Et les gamins, ils jouent à Fortnite.
Ouais.
Et on a deux postures. Soit on dit, de toute façon, Fortnite c'est de la merde, pourquoi tu joues à ça? Tu ferais mieux de lire Balzac. Soit on dit, très bien, il y joue, essayons de réfléchir avec lui à ce que ce jeu lui apporte en termes à la fois de bien-être, pourquoi il y joue. S'il y joue trop, peut-être lui faire comprendre qu'il ne faut pas jouer trop autant que ça. Et puis, moi j'adore Fortnite, tu peux délirer sur le fait que c'est un jeu anti-écolo de ouf quoi. Moi, je veux dire, tu déforestes la map à chaque fois quoi. Genre, c'est pas du tout écolo. Hein. Ah. Et à ça, un gamin m'a répondu, ouais, même si on recycle des voitures. Et là, il marque un point, on recycle des voitures dans Fortnite.
Ah, tu vois, la preuve, tu vois, les points de vue, c'est marrant, tu vois. Et en plus, même à différents âges, tu vois. Enfin, c'est bête, mais tu vois, par exemple, moi, je suis 99. Et du coup, je suis un peu l'une des premières générations où, tu sais, on a un peu mis l'écologie au centre, etc. Et au final, tu vois que les gens... Moi, j'aurais pas eu ce réflexe-là plus jeune, tu vois, je pense. Si j'aurais joué à Fortnite, tu vois.
Ouais,
mais au final, maintenant, il y a tellement... Il y a tellement l'écologie, etc., qui est mise en avant que tu vois, même, c'est beau quand même, tu vois, que je sais pas quel âge il avait, par exemple.
Oh, mais ça c'était 12-13 ans, quoi, 6ème, ouais, fin de 6ème, je crois.
Ça, c'est trop bien d'avoir ce genre de réflexion, tu vois.
Mais tu vois, il a eu cette réflexion parce que je lui ai donné ça à dire, enfin, voilà, et en fait, j'aime bien ce dialogue qui se crée grâce au jeu. Je ferai jamais partie de leur monde, je resterai le prof qui est plus vieux qu'eux, même si je suis plutôt jeune en tant que prof, J'arriverai jamais à leur parler, à parler vraiment comme eux, je cherche pas à parler vraiment comme eux.
Bien sûr.
Mais par contre, je veux vraiment leur montrer que ça, c'est un milieu que je connais, je m'y suis intéressé. Et quand je fais de la prévention sur les jeux vidéo, ben, je sais de quoi je parle.
Ouais.
Et on me pose souvent la question, est-ce que faut faire ça? Est-ce que tout le monde doit faire ça? Est-ce que tous les profs doivent faire ça? Et je pense que non. Mon point de vue, c'est qu'en fait, une bonne scolarité, c'est une scolarité où les élèves, ils ont été formés à tout. Au langage cinématographique, au langage artistique, de la peinture, de tous les types d'art. Et le jeu vidéo en est un, pour certains, pas pour d'autres. Enfin, moi, je rentre pas dans le débat. Et en fait, je participe juste à leur formation de citoyen. C'est-à-dire que demain, ils quittent le collège à 15 ans, la scolarité obligatoire est finie. Et ils vont débarquer face à des jeux qui vont sortir, des GTA 4, des GTA 6, pardon, Boomer, GTA 6, Red Dead 3, enfin voilà. Et d'avoir ce genre de réflexion avec eux, je trouve que c'est intéressant parce que voilà, ça les prépare au monde dans lequel ils vont vivre et à acquérir des réflexes.
Ouais.
Et au final, moi, si l'élève que j'ai eu en classe, il me dit, enfin, je le vois face à un jeu ou à un film, moi, il me dit, c'est vrai ce qu'il y a dans le jeu, monsieur ? Moi, j'ai fait mon job. Parce qu'en fait, il a acquis ce réflexe de se poser la question. Et ensuite, mon autre boulot, c'est de lui apprendre à trouver la bonne réponse.
Ouais,
et ça,
voilà,
c'est une autre partie du job, ça. Mais qu'on faisait déjà avant, en fait. Je fais rien de nouveau. Il n'y a rien d'innovant, de ouf, quoi. Je fais juste le boulot qu'on m'a formé à faire, mais sur un média qui est récent. Et comme tu disais, qui a une dimension très particulière, qui est l'interaction.
L'interaction et la mise en action, tu vois, je trouve. Parce que, par exemple, tu vois, c'est bête, mais... par exemple, tu vois, quand tu montres un film, par exemple, personne va en plein milieu du film mettre pause et dire ah attendez j'ai remarqué ça, alors qu'un jeu au final vu que t'es en pleine action tu peux t'adapter je trouve et changer un peu ton point de vue par rapport à ça et même en fait ouais au final ce que t'as dit tout à l'heure moi j'ai trouvé ça hyper intéressant le fait qu'il n'y ait qu'une personne ou un petit groupe qui joue et au final les autres observent, je trouve que c'est vraiment une c'est vraiment une bonne chose et même ce recul que t'as par rapport tu vois il y a beaucoup de gens qui ont pas ce recul tu vois, en mode je cherche pas à rentrer dans son univers ni dans son monde, mais plus déjà à le comprendre, tu vois. C'est bête, mais tu vois, il y a plein de gens qui parlent de ça sans forcément s'être informé dessus. Tu vois. Et ça, quand même, c'est une démarche où déjà ça enlève les a priori. Parce que du coup, tu connais ton sujet et tu peux en parler librement et aussi comprendre l'interlocuteur. Parce que si tu t'es pas informé dessus, ça veut dire que t'es bloqué parce que t'as pas les informations nécessaires. Donc, ça, c'est quand même hyper intéressant. Et voilà.
Non, et puis il y a cette dimension, enfin, il y a un truc sur lequel j'essaie de militer, c'est la catégorie les jeux vidéo.
Oui,
les jeux vidéo, ça veut rien dire, comme si on disait les films. En fait, il y a des films d'auteur, il y a des films grand public, il y a des jeux AAA, des AA, des jeux indés, il y a ça, mais il y a des jeux engagés, il y a des jeux qui ne le sont pas, il y a des jeux qui sont juste des pompes à fric, voilà, des jeux qui cherchent juste à faire de l'argent. Et en fait, il y a différents types de jeux. Et ça fait partie de notre mission aussi de les former à ces différents types de messages que peuvent porter les jeux. Il y a des jeux qui volontairement portent des messages politiques, économiques, sociaux. Enfin voilà, quand tu joues à Fiscal Combat, bon, c'est pas un jeu très grand public, mais tu joues à Fiscal Combat, il y a un message derrière. Bon, il est pas très bien caché. Mais tu joues à Papers, Please, tu joues à Headliner Novi News, qui sont pas des jeux très connus, c'est des petits jeux indés. C'est le même développeur, c'est pour ça que je donne les deux en même temps.
Okay.
Ce sont des jeux qui ont un parti pris, qui ont une volonté de parler d'un sujet.
Ouais.
Dans Papers, Please, c'est la critique des états totalitaires qui limitent l'entrée des migrants. Dans Headliner Novi News, il y a une critique, ou tout du moins, ça pointe du doigt le problème que les médias influencent l'opinion publique au point de pouvoir créer des révoltes. Mmh. Voilà, parce que les gens lisent les journaux, ils sont influencés par ce que disent les journaux.
Okay. Ah,
donc il faut faire la part des choses. Quand on joue à Assassin's Creed, est-ce que tout d'un coup on va révolutionner la manière de voir le monde, l'histoire, etc. C'est pas leur ambition non plus, il n'y a pas vraiment un message derrière, hein. C'est juste jouer avec le passé, quoi.
Ouais,
voilà.
Voilà.
Faut savoir un peu faire la part des choses, reconnaître que les jeux ont une mission qui est d'être un divertissement, qui sont porteurs de messages et qui les transmettent de différentes manières, l'audiovisuel, le gameplay, plein de choses, et d'autres, et que autour il y a une industrie, mais il y a des communautés qui se créent aussi, hein, les nerchis sur lesquels j'ai pu rejoindre sur Facebook autour des jeux Paradox par exemple, et c'est hallucinant, les mecs ils en savent plus que moi. Donc c'est un peu le métier quand même, sur le Saint-Empire romain germanique. Hein.
Okay.
Est-ce qu'ils ont joué à ce jeu-là, ils ont poncé les règles, ils connaissent les règles par cœur, ils sont allés s'informer sur Wikipédia et même dans des bouquins, parfois ils te sortent des références bibliographiques de malades que moi je connais même pas.
Aussi. Faut la démarche de s'informer aussi. Parce qu'il y a des gens, tout comme les jeux, la conception des jeux en soi, je trouve, il y a des jeux en fait, ils vont juste vouloir un certain gameplay et un certain style de jeu et... Bon, vas-y, on va trouver un environnement qui va coller à ça. Et d'autres, comme tu disais, tu vois, où ils vont vraiment chercher à passer un message, soit à faire comprendre des messages que t'as pas forcément compris. En vrai, il y a vraiment. J'ai toujours trouvé ça intéressant parce que d'un côté, moi je trouve que quand les gens s'embêtent sur le scénario par exemple et sur tout le message qui doit passer, moi je trouve déjà que ne pas prendre le joueur pour un débile, c'est un message hyper important.
Et tu vois, je prends un exemple qui va être bien, qui va bien clasher, c'est GTA 4. Ouais. Il a fait couler des tonnes d'encre.
Ça y est, le 5 ou le 4 ?
Non, le 4. Okay. Je parle du 4. Quand il est sorti, ça y est, c'était. Alors, tu lisais Libération, c'était le meilleur jeu du monde. Tu lisais Le Figaro, la jeunesse était perdue.
Ouais.
Voilà. Et il y a un chercheur qui s'appelle Olivier Moko. Okay. Je salue si jamais il regarde le replay un jour. Il a étudié au GTA 4 et je vais pas vous refaire tout le bouquin, mais il a analysé la géographie des missions. Okay. Alors dans GTA 4, tu joues un immigrant qui arrive en ville et qui rêve, qui a le rêve américain en tête. Okay, il veut vraiment devenir l'américain
4,
parfait.
Le 4, c'est pas celui que j'ai le plus prononcé.
Ah non, mais. Et encore, je te dis ça, voilà, je n'y ai moi-même pas totalement joué, mais je me fie à son analyse, que je lui fais confiance. Et il a fait une géographie des missions. Et il a montré qu'en fait, toute la mission de la trame principale, des quatre arcs narratifs du jeu, tourne autour du centre-ville et n'y rentre jamais. Okay. C'est-à-dire que tu peux rentrer dans le centre-ville, mais ce ne sont jamais les missions qui t'y emmènent. Mmh. Et. Au final, cette lutte ou cette recherche de l'American Dream et de vraiment de devenir l'américain intégré, ouais. La narration ne t'emmène jamais là où ça se passe.
Okay.
Et te déclasse totalement en fait.
Ouais.
Et te fait comprendre que tu n'auras jamais accès à ce centre-ville sauf qui si est la place de l'américain.
Sauf si tu y vas toi-même.
Voilà, mais quand tu y vas toi-même, tu n'as aucune interaction avec ce monde, ouais. Si ce n'est les courses-poursuites, tu es des gens, t'as pas de mission vraiment qui t'y emmène quoi. Et donc, ce jeu qui a été décrié pour la violence. En fait, il est hyper réfléchi. Et donc, le narrative designer, le level designer, tous ces métiers-là, ils ont des missions, ils font passer des messages. Et c'est ça qui est important de voir avec les élèves et de leur faire comprendre.
Okay.
Et juste, je rebondir sur le côté, sur les genres de jeux vidéo et les différents types de gameplay.
Ouais.
C'est hyper pertinent, ça. Et ça, c'est fondamental parce que les jeux te mettent. Dans un jeu, t'es acteur.
Ouais.
Donc, t'es acteur de l'histoire que tu vois, contrairement au film, etc. Mais les différents gameplays qu'on te propose ne te mettent pas dans la même situation d'acteur.
Ah bah non,
il y a une différence entre vivre la bataille révolutionnaire dans Hold Fast, voilà. Bon c'est what the fuck, mais tu joues un soldat pendant les batailles napoléoniennes,
okay.
Ou diriger la France dans Victoria.
Là, ouais.
D'un côté t'es le soldat, de l'autre t'es le chef d'état-major, voire le chef d'état. Et ces deux expériences de l'histoire qui sont différentes, soit c'est une histoire par le haut, une histoire par les structures, une histoire par les chefs, soit tu fais une histoire par le bas. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de voir que c'est une expérience, des expériences de vie, alors certes numériques, mais qui sont différentes.
Eh bien, je suis totalement d'accord avec tout ce qu'on vient de dire. En vrai, c'est vrai que c'est une question hyper intéressante, parce que c'est même collé à tout, en fait. Au final, là, on parle des jeux vidéo, mais on pourrait parler des films, tu vois. Ou par exemple, est-ce qu'il y a vraiment des gens qui donnent des messages, tu vois, derrière. C'est tout type d'art, je pense. Il y a l'art qui... va vouloir faire passer un message et l'art qui bah tout simplement juste créé pour être vu, consommé, tu vois.
Oui, et puis il y a la question de l'intention.
Hein. Ouais, voilà,
moi je fais de l'analyse de doc. Hein. Peut-être que tu t'es déjà posé la question, moi je me suis posé quand j'étais au lycée, quand on fait de l'analyse de texte et qu'on va déblatérer, il y a Cyprien qui a fait une vidéo là-dessus, on va déblatérer pendant une heure sur la virgule. Ouais, Balzac, il a voulu dire tel truc. Et en fait, moi je rêvais que Balzac il vienne, il dit non mais.
Oui, moi non, mais
n'importe
pareil.
Quoi, c'est pas ça que je voulais dire.
Ah, mais, moi j'étais payé. Ça m'est arrivé mille fois de me retourner et faire non mais c'est bon, genre on sait très bien que. Non,
à l'époque ils étaient payés à la ligne.
Ouais,
pourquoi les auteurs, Zorzola, t'as des descriptions à l'appel, mais c'est parce qu'ils étaient payés à la ligne. Donc forcément qu'ils vont décrire, c'est pas qu'ils avaient une volonté, ils ont envie de décrire, c'est qu'en fait ils rajoutent des caisses parce qu'ils sont payés à la ligne.
Ah, mais tu vois par exemple ça, quand tu le sais pas,
mais
t'es vraiment en mode bah.
Donc. Tu peux faire dire ce que tu veux à une œuvre, et en fait, il y a cette double question.
Bah surtout quand l'œuvre date de très longtemps.
Tu la replaces forcément dans un contexte.
Ouais,
hein.
Voilà.
Battlefield 1, il est sorti en 2016, parce que c'est le centenaire de la guerre.
Ouais.
Ils le ressortiront jamais.
Oui.
Ils reprendront jamais un jeu sur la Première Guerre mondiale, parce que c'est un conflit qui est nul. C'est un conflit qui n'a pas d'enjeu. Il y a zéro enjeu dans la Première Guerre mondiale. On ne sait même plus pourquoi on s'est battu. Déjà, à l'époque, on ne savait même plus pourquoi on se battait.
Okay.
Comment tu veux qu'aujourd'hui les joueurs qui jouent à Battlefield ils se sentent investis?
Oui.
En fait ils savent même pas contre qui ils se battent.
Oui, oui, c'est vrai
que... n'importe quoi. Alors que la Seconde Guerre mondiale, tu fais Battlefield 5, là tu te bats contre les nazis. Là t'as un enjeu, voilà. Donc t'as cette question là, t'as la question du contexte dans lequel est né le jeu, l'intention qu'ils avaient, enfin voilà. Hein, et Est-ce que le message que moi j'ai interprété, que j'ai vu, est-ce que c'est vraiment le message qu'ils voulaient faire passer? Du coup, est-ce qu'ils avaient vraiment la volonté de le faire passer? Ou est-ce que parce que ils ont eu une certaine éducation, ils ont certaines idées politiques, économiques, sociales, ouais, qui sont de droite, de gauche pour faire simple, est-ce que parce qu'ils ont ça au fond d'eux, ils ont fait un jeu dans ce genre-là? C'est une question à se poser. Est-ce qu'ils ont vraiment voulu faire ça par idéologie? Ouais. Est-ce qu'ils l'ont fait par hasard? Parce qu'en fait, c'est comme ça qu'ils pensent de base et qu'ils ont été bien éduqués ou éduqués tout court. Ou, voilà. Et est-ce que le message que moi j'ai vu, est-ce que c'est le bon message? Est-ce que c'est le message que les développeurs voulaient me faire passer? Ouais, genre ça, l'écologie dans Fortnite. Ils ont jamais voulu faire un jeu comme ça. C'est pas le message. Moi je le vois parce que j'intellectualise le truc et que je suis prof d'histoire géo et tout. Et j'enseigne le développement durable si tu veux. Ouais. Mais est-ce que le message. Voilà. Et en fonction de l'éducation que l'élève va avoir, même que les joueurs vont avoir, ils vont pas avoir les mêmes messages. C'est pour ça que j'en parlais ce matin aussi. Le fait de jouer. En fait, même un jeu historique, on n'y joue jamais comme un mec de l'histoire.
Oui.
On n'arrive jamais à jouer à Assassin's Creed Odyssey comme un vrai grec.
Bah oui, non.
Un vrai grec, il demanderait jamais où est Athènes. Il demanderait jamais où est le Parthénon. Il demanderait jamais qui est Périclès.
Oui, enfin, bah en même temps, il y a le côté aussi où les développeurs veulent aussi que le jeu soit peut-être facilement jouable, tu vois.
Bien sûr.
Mais l'expérience de jeu aussi.
C'est pas une critique, cool, tu vois, c'est pas une critique en fait. On est du 21e siècle. On doit jouer, on a envie de jouer à ce jeu-là, et puis on va se prendre au jeu, on va dire, ouais, je vais jouer, le jeu m'offre cette opportunité, je vais jouer à ça. Enfin, genre, je prends un exemple, dans Odyssey, Assassin's Creed Odyssey, on peut coucher avec tout le monde, grosso modo. Qu'on soit un homme ou une femme, on couche avec tout ce qu'on veut. Ou on ne couche pas d'ailleurs. Et il y a des joueurs et des joueuses qui se sont dit, non, moi je vais faire un personnage uniquement homosexuel.
Ouais.
Soit. Sauf qu'en fait, un grec n'aurait jamais pensé comme ça. C'est pas, déjà, rien que le terme n'est pas grec. Ça n'existe pas en tant que tel. Et ce qu'on appelle nous homosexualité au 21e siècle, c'est pas la même chose que dans la Grèce antique. Voilà. Okay. Il y a eu des relations de type homosexuel, mais en fait, c'est pas un mot qui faisait partie de leur vocabulaire. Donc en fait, la manière de jouer, elle est anachronique.
Ouais.
Voilà. Et ça, faut le prendre en compte quand t'es un game designer.
Oui.
C'est que tu vas forcément avoir des joueurs qui vont pas jouer le jeu comme t'avais prévu qu'il soit joué. Mmh. Voilà. Et donc, c'est pour ça que j'adore les jeux qui créent des règles du jeu qui soit vraiment cohérente avec le monde historique.
Ouais.
Les jeux Paradox, pour ça, sont géniaux. Même si le joueur veut faire n'importe quoi, il est obligé de respecter des règles du jeu qui sont respectent la réalité sociologique, politique, économique de l'époque.
Ouais,
et donc le joueur peut faire ce qu'il veut, mais dans le cadre de l'histoire, parce que les règles sont legit. Dans Assassin, bon, mis à part la narration et le monde audiovisuel, le gameplay, il t'apprend pas grand chose et justement t'as cette fantaisie et j'en discutais avec une personne ici, c'était vraiment c'était Dumas qui dit ça en fait, je viole l'histoire, grosso modo il violait l'histoire et il rajoutait de la fantaisie pour que ça donne un peu de goût et du peps à l'histoire, parce que pardon je parle trop mais
t'inquiète
vous le dites si je suis chiant c'est pareil en classe, alors imaginez, mais qu'est-ce que je voulais dire déjà? J'ai oublié ce que je voulais dire. Mais c'est. Oui, si. Techniquement, on ne peut pas jouer avec l'histoire.
Ah bah non.
Puisque l'histoire, elle est passée. Donc, tu ne peux plus être, toi, acteur d'une histoire qui s'est déjà faite. Donc, un bon jeu historique, c'est un jeu dans lequel tu refais les choix exacts qui ont déjà été faits par des acteurs. Mmh. Autrement dit, tu joues pas. Tu fais juste que cliquer. Ah, il a dit ça, bah je vais dire ça.
Ouais.
Donc, en fait. N'importe quel jeu est forcément anachronique. En tout cas, quand tu donnes la liberté exacte aux joueurs. Sauf quand tu fais comme Ubisoft, tu prends un pas de côté, ils sont pas les seuls, tu prends un pas de côté et tu racontes une histoire fictive dans un monde historique pour faire comprendre quelque chose.
Oui,
okay. My Memory of Us.
Ouais.
T'es deux enfants juifs dans le ghetto de Varsovie, ils ont pas vraiment existé, mais ils vont rencontrer des personnages qui ont existé et ils vont te raconter une histoire qui a globalement existé, mais c'est pas la leur, parce que eux n'existent pas.
Oui, bien sûr.
Mais ça permet de raconter quelque chose.
Ok. Bon, c'est hyper intéressant, mais je pense que là, je vais mettre une dernière question. Tu nous as dit tout à l'heure que tu faisais des conventions, etc. Tu fais quoi du coup autour?
Alors à la base, le projet c'était une chaîne YouTube parce que je voulais faire mon mini JDG. Voilà, mon modèle.
Ouais.
Mon modèle c'était JDG et je voulais faire un peu comme lui, mais dans le monde historique. La vulgarité en moins parce que des élèves allaient pouvoir me voir, donc j'avais pas le droit de dire merde. Voilà, je suis un peu revenu sur cette règle.
Ouais.
Et ensuite, du coup, j'ai essayé de diversifier un peu mon approche. Je me suis mis sur YouTube aussi pour pouvoir en parler aux élèves, pour être très, très transparent. Parce que parler d'un média sans vraiment le pratiquer, je me sentais pas de leur expliquer la monétisation, les problèmes de monétisation, l'algorithme et tout, sans le vivre. Et j'avoue que je le vis bien. Enfin, franchement, ouais. je comprends bien en voyant mes vidéos pas du tout monétisées, ouais, parce que j'ai pas assez de vues. Enfin, voilà, je leur explique, je leur dis concrètement, voilà, je touche pas d'argent parce qu'il y a cet algo.
Ouais.
Et du coup, après, je me suis dit, bah, là, c'est la mode de Twitch aussi. Et j'avais envie d'avoir une discussion. Ce qui me manquait, c'était l'espace commentaire ou un espace où on pouvait discuter ouais. avec les gens. J'aime bien discuter avec les gens, comme j'aime bien discuter avec mes élèves. Donc c'est pour ça que je me suis mis sur Twitch. J'y suis deux fois par semaine, le mercredi après-midi ouais. et le samedi soir. D'ailleurs, j'y serai ce soir pour faire un playtest de ma conférence de demain.
Okay. Bon, bah ça,
parce cool. que j'ai pas encore fini de l'écrire, donc je veux faire un playtest en live ce soir.
Ouais.
Et de temps en temps, voilà, en fait, je propose mes services, je vends mes services aux médiathèques, bibliothèques ou lieux culturels qui veulent bien m'accueillir. Pour toi, des conférences. Soit des conférences en jeu, qui c'est le cas de celle de demain. En fait, c'est une conférence où on joue au jeu
ouais.
ensemble, un jeu en particulier. En fait, on commence ce qu'on voit.
Okay.
Donc, je laisse la manette au public.
Okay.
Et ou des ateliers pédagogiques qui sont c'est ce que je fais en classe avec des petits groupes d'enfants ou des groupes familiaux
ouais.
où on va vraiment travailler une question avec des fiches d'activité, des trucs chiants, des questions. Non, voilà. Mais des ateliers un peu plus okay. en plus petits groupes sur des points très précis. Voilà.
Ok, ça marche. Bah écoute, je pense qu'on va arrêter. Pour le moment, cette interview.
J'ai un Discord aussi, je te coupe, j'ai un Discord. Si jamais, il y a un Discord.
Faisons le listing. Vous pouvez retrouver cet homme
alors,
sur
YouTube,
Twitch.
Il y a Discord,
Instagram.
Y a Instagram, Twitter, Facebook.
Et une adresse mail où il manque un
E. Et une adresse mail, mais il manque un E à enjeu. Voilà. Mais
voilà.
Vous me trouverez assez facilement, vous tapez William Brew sur Google et normalement ouais. ma tronche arrive assez vite et les élèves adorent chercher mon nom sur Google. Voilà.
Et du coup voilà, tout sera dans la description pour le replay YouTube. Et puis bah, en tout cas, merci beaucoup.
Non, merci beaucoup pour l'interview, enfin de m'avoir invité, c'était super.
Et puis
cool.
je te souhaite une très bonne fin de journée pour aujourd'hui et puis bon courage pour demain aussi.
Merci beaucoup, bon courage pour la suite.
Merci bien.
Bonne fin de journée et salut à tout le monde.
Salut.
À bientôt, salut.
Merci d'avoir écouté Ange Pop Corner. Retrouvez tous nos podcasts sur vos plateformes préférées et retrouvez-nous toute la semaine sur Twitch.